Attention, success story. L'histoire est assez incroyable pour que l'on ait toujours envie de la raconter. C'est dans son sous-sol que Willy Marolo, alors âgé de 22 ans, a créé son entreprise. C'était en 2008. Et si l'histoire est aussi belle, c'est que 16 ans plus tard, 50 Factory à Cerizay et son encore jeune patron, 38 ans seulement, affiche un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros et beaucoup d'ambition. Des étapes passées à venir que nous allons évoquer ce mardi en sa compagnie et celle de Dominique Guinfolo pour l'ANR, Fabien Gau pour le Courrier de l'Ouest. Bonjour Fabien, bonjour Dominique.
Bonjour.
Bonjour Willy Marolo et Patrice évidemment à la technique. Vous avez 22 ans quand vous avez créé votre entreprise. L'esprit entrepreneurial, vous l'aviez déjà dans un coin de votre tête depuis vos études d'ingénieur ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que si je me replonge un petit peu en arrière, j'ai toujours eu quand même la fibre en fait, une double fibre on va dire, la partie commerce et vraiment la partie mécanique, vraiment, et puis il y a l'informatique aussi qui s'est mêlée en fait de tout ça, donc la fibre de l'entrepreneuriat non, mais vraiment d'être porteur de projet, d'aller vraiment au bout aussi des projets, des envies, et puis la passion aussi, hein, parce que vraiment on est dans des univers mécaniques, donc... Quand on draine tout ça, forcément, ça donne un petit peu d'énergie et qui permet d'avancer. Mais effectivement, non, j'avais pas forcément de connaissance de ce qu'était l'entrepreneuriat à l'époque. Et du coup, voilà, c'était plutôt une découverte. Et c'est le fait de porter mon projet qui a fait que, voilà, on se retrouve un peu plus de 15 ans plus tard avec ce qu'on est aujourd'hui. Quoi.
Vous vous souvenez précisément de votre premier acte de vente, par exemple ? Vous savez ce que c'était exactement ?
Ouais. Je m'en souviens comme si c'était hier. Effectivement, c'était une commande qui était pour le sud-est, ouais, un lot de carénage de scooter, je me souviens très bien. Et comme si c'était hier, je me suis dit, ça y est, c'est parti, quoi, c'est lancé. Mais loin de me douter de la suite.
Voilà, parce qu'au départ, c'était donc des pièces détachées de motos, de... Comment vous appelez ça, vous, les garçons ?
De 50
voilà, de 50, ouais. C'est ça que vous alliez récupérer pour les vendre, en fait. Vous les remettiez en état et vous les vendiez.
C'est ça, exactement. Donc, vraiment, au tout départ de l'activité, hein, donc, dans le contexte, il faut se rappeler que moi, j'ai commencé, en fait, l'entreprise, j'ai lancé l'entreprise, j'étais encore étudiant. Donc, j'étais en alternance en école d'ingénieur et c'était vraiment par passion que j'ai lancé l'entreprise en parallèle. Et effectivement, je me suis aperçu au départ que j'avais quelques pièces qui me restaient dans mon garage, que je me suis mis à vendre du coup sur Internet. Et je me suis dit, y a peut-être quelque chose à faire parce que finalement, je me rends compte qu'il y a une demande qui n'est pas forcément satisfaite. Et je suis parti de ce besoin et c'est là que voilà, j'ai commencé du coup à non plus vendre les pièces qui me restaient, mais vraiment acheter un véhicule pour le démonter et ensuite le mettre en pièces pour le vendre. Puis un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Et c'est vraiment effectivement de l'occasion que tout est parti. Donc vraiment les véhicules d'occasion.
Quoi. Dominique.
Dans votre famille, vous n'aviez pas d'exemple justement de chef d'entreprise pour vous inspirer. C'est vraiment la passion et l'activité qui vous a conduit à ce statut maintenant.
Oui. Alors il n'y avait pas forcément d'exemple dans l'entrepreneuriat, on va dire, très proche. Après, vraiment, moi, que ce soit mon frère qui a pratiqué le motocross ou mon père qui a toujours le garage à la maison avec plein d'outils, et que ce soit les tracteurs ou d'autres engins à la maison, il y a toujours eu vraiment la partie bricolage. Donc il y avait quand même déjà une ouverture sur la partie vraiment technique et puis vraiment déjà une appétence pour cet univers. Quoi.
Et vous avez vu donc que ça marchait bien et vous vous êtes dit pourquoi pas les pièces neuves.
C'est ça, exactement. Donc en fait, si on refait un petit retour en arrière, ça fait tout juste 10 ans aujourd'hui qu'on développe des pièces neuves, hein, depuis 2013 et vraiment 2014. Et là encore, en fait, je suis tout simplement parti du constat qu'on était un petit peu aussi... j'étais frustré de se dire on est limité aujourd'hui dans l'offre de produits qu'on peut proposer. Et donc, comment faire ? Tout simplement, il faut aller, en plus de l'offre d'occasion, aller chercher une offre de pièces neuves. Parce que là, quand on commande au fabricant, on est sûr d'avoir, à peu près sûr d'avoir la quantité dont on a besoin pour satisfaire la demande de marché.
Alors, c'est quand même beaucoup plus facile de vendre des pièces neuves que de vendre des pièces d'occasion, puisqu'il n'y a pas de partie de démontage. Parce que quand on va dans les coulisses de votre site, on démonte un scooter ou un cyclo, il faut laver les pièces, il faut les prendre en photo, c'est toute une chaîne très, très complexe de mise en de référencement.
Oui, complètement. C'est un métier qui est vraiment très différent, qui est beaucoup plus chronophage forcément sur la partie occasion. Et on se rend compte que finalement, la pièce neuve et la pièce d'occasion ne sont pas directement concurrentes. Parce que souvent, la pièce d'occasion, en fait, ça va être intéressant sur des véhicules qui sont un petit peu plus anciens ou sur des produits qui sont sur des pièces qui sont plus fabriquées aujourd'hui, en fait. Et puis également aussi sur des pièces qui sont onéreuses, par exemple une fourche ou une jante, ça c'est complètement inabordable en pièce neuve, donc c'est pour ça que la pièce d'occasion est intéressante.
Donc chronophage, pardon, et beaucoup plus de travail, donc ça reste maintenant une petite niche, ça, les pièces détachées d'occasion.
En fait c'est aussi naturel, dans le sens où heureusement on ne maîtrise pas ceux qui s'accidentent sur la route, donc forcément ça dépend des véhicules qui sont accidentés, et aujourd'hui effectivement c'est 1% de l'activité, donc c'est pas que ça réduit, c'est plutôt que la pièce neuve effectivement s'est beaucoup développée, et c'est aussi stratégiquement que j'ai souhaité aussi développer cette partie là parce que aussi naturellement si on prend que ce soit des consommables, que ce soit les plaquettes de frein ou des pneus, ça c'est des produits qui se vendent neufs.
La force de votre modèle, c'est le stock, c'est ce que vous dites toujours. C'est ce que vous aviez imaginé dès le départ, c'est-à-dire de se constituer suffisamment de réserves, en quelque sorte, pour répondre autant que possible à la demande, et surtout rapidement.
C'est effectivement, je pense, on pose des fois la question, qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui fait un petit peu votre spécificité. Je pense que c'est ça, en fait. Ça, c'était un parti pris très tôt, quasiment dès le départ. Enfin, je dis quasiment parce que je me souviens très bien les années 2013-2014, quand je prenais des commandes par téléphone, c'était encore moi au téléphone à ce moment-là, et j'acceptais toutes les commandes, c'est-à-dire que ce que vous avez, oui, bien sûr, j'ai, et je me débrouillais pour voir le plus vite possible.
Même quand vous n'aviez pas.
Bien sûr, faut se lancer, et je me suis rendu compte que la plupart du temps ça marchait, et ça permettait aussi de sonder aussi l'offre, mais les quelques fois où les fournisseurs ne suivaient pas, c'était un petit peu problématique, et donc il fallait rattraper le coup. Et donc très tôt, en fait, j'ai pris le virage de se dire c'est lourd financièrement, mais je stocke à 100%. Et aujourd'hui, c'est, je pense, une de nos forces essentielles qui permet ensuite d'avoir une réactivité, parce que vraiment, nous, notre mot d'ordre, c'est l'excellence logistique, c'est-à-dire que toutes les commandes qui sont passées jusqu'à 15h le jour même, on est capable de les livrer le lendemain matin partout en France.
Alors vous allez un peu à l'encontre de toutes les entreprises qui disent surtout aujourd'hui, plus je ne veux plus de stock, parce que forcément, c'est un apport en trésorerie énorme.
Effectivement, et c'est là qu'on rentre dans, je dirais, une certaine forme d'ajustement, parce que tout nécessite en fait de fin réglage. C'est nécessaire d'avoir le bon stock, pas trop mais assez, et c'est là qu'effectivement on doit toujours être le plus précis possible pour satisfaire les clients, tout en accompagnant la croissance qu'on a en fait chaque année.
Et ça vous oblige à grandir aussi au niveau de logistique, et en fait, en quelque sorte, parce que maintenant c'est combien de mètres carrés? C'est énorme.
Alors aujourd'hui on a fait 3 agrandissements, plus on a racheté le bâtiment qui était voisin, et aujourd'hui en fait on arrive à 5000 mètres carrés de bâtiment.
Donc, plus grand qu'un garage.
C'est un petit peu évolué effectivement. Et aujourd'hui en fait, et encore une fois pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant, ça nécessite en fait la gestion du stock, quelques fins réglages. Et on se rend compte qu'en ayant beaucoup travaillé cette année là-dessus, on se rend compte qu'on peut encore optimiser finalement notre bâtiment pour aller beaucoup plus loin en termes de croissance, tout en gardant des surfaces comme on a aujourd'hui.
Ça veut dire que concrètement, vous avez combien de... Vous savez déjà combien de références vous avez en stock, et comment ça se passe? Je veux dire, une commande passée avant 15h, il y a combien de personnes qui font quoi pour que le client soit servi le lendemain chez lui?
Alors c'est simple et complexe à la fois. Alors déjà, pour répondre sur la première partie de la question, on a environ 70 000 références. Je dis environ parce que ça augmente et ça baisse. Ça évolue tout le temps. Ça augmente un peu plus que ça baisse.
70 000, c'est ça ?
Oui, c'est ça, 70 000. Ça bouge tout le temps, de mois en mois. Et après, sur le fonctionnement concrètement, en fait, toutes les commandes qui arrivent donc tout au long de la journée et beaucoup dans la soirée, hein, parce que c'est quand même beaucoup dans la soirée que les commandes se font. Donc on a le plus gros des commandes arrive dès le matin. Et les dernières commandes qui arrivent donc jusqu'à 15h, on va sortir vraiment des lots de commandes qui sont préparés avec des chariots qui vont dans les différents étages de notre magasin et qui passent entre 4 personnes en fait, entre les mains de 4 personnes, parce que chaque personne en fait chaque groupe de personnes en fait a sa zone de préparation de commandes. C'est ce qui permet d'avoir vraiment des zones affectées avec des personnes pour que ce soit le plus efficace possible.
Oui, la réactivité. Elle est là à ce moment précis.
C'est ça. Bah, je fais souvent le comparatif avec la restauration quand on parle de coup de feu. Voilà. Il y a des moments phares. Bah, là, si on vient chez nous effectivement à 15h30, bah, là, on voit que ça va un petit peu à droite à gauche parce qu'on sait que tout doit être expédié pour 16h45 pour qu'on puisse assurer la livraison le lendemain matin.
Alors, cette réactivité, c'est votre force de frappe, on le comprend bien. Mais est-ce que c'est pas tout autant votre site internet où on peut aller chercher n'importe quelle de ces 70 000 références?
Oui, bien sûr.
Alors, laquelle vous prioriseriez en force de frappe, le stockage ou le site?
En fait, tout va ensemble. Après, bon, je pense que c'est universel dans le commerce, mais même dans d'autres activités. Ce qu'il faut, c'est toujours être le meilleur possible sur chacun de nos domaines. Et il faut toujours avancer aussi de pair. Donc, il faut que le client puisse trouver facilement le produit dont il a besoin. Et ensuite, qu'on assure vraiment le service, parce que pour moi, c'est ce qui est vraiment au-dessus de tout ça, c'est vraiment le service. Ce qu'on veut toujours, nous, avec nos clients, c'est pas qu'ils commandent une fois, c'est qu'ils commandent et qu'ils recommandent et qu'ils nous recommandent aussi auprès de ses amis, quoi.
On ne vous l'a pas fait préciser là en introduction, donc vous faisiez des études d'ingénieur, dans quel domaine? Parce que là, en vous écoutant, le marketing, c'est aussi très très important.
Effectivement, ouais, le marketing, la communication, les moteurs de recherche sur Internet, clairement, c'est dans nos priorités. C'est pas forcément des choses que j'ai pu découvrir à l'école. Et effectivement, j'ai vraiment une formation technique à 100%. Je me prédestinais pas à être forcément entrepreneur, mais plutôt à être cadre dans l'industrie. Plutôt dans tout ce qui est optimisation process, gestion de production, des services, des activités comme ça, quoi. Mais la passion a un petit peu pris le dessus.
Oui, alors ça me fait rire. La passion, vous le disiez, mais finalement, aujourd'hui, vous n'êtes pas motard. Hein.
Non. Alors, je suis pas motard, mais en fait, on se rend compte quand on est passionné par la technique, en fait, parce qu'une pièce détachée, en fait, il y a toujours des processus de fabrication derrière, que ce soit de l'usinage, que ce soit de la découpe, de l'injection. Enfin, il y a plein de process, et ça, vraiment, ça a fait l'objet principal de mes études. Donc, au cœur de tout ça, il y avait vraiment cette verticale, quoi.
Alors, vous disiez à l'instant que vous êtes passionné par la technique, par les pièces. Vous n'avez jamais été tenté dans vos diversifications de 50 factories de revenir à cette passion de fabriquer une pièce, de la pièce 50 factories ou des accessoires 50 factories?
Alors c'est effectivement un sujet. C'est un sujet dans le sens où on a un service en interne. Donc le service développement, on a 3 personnes pour qui c'est le métier, même si effectivement ça reste minoritaire dans nos activités. Qui sont principalement, je le rappelle, la négoce, donc l'achat-revente de pièces détachées. Maintenant, effectivement, on va venir créer, développer des produits, à la fois quand on sent un besoin, quand on peut améliorer un produit existant, ou aussi quand on peut tout simplement refaire fabriquer un produit qui n'est plus fabriqué aujourd'hui, quoi.
Parce qu'on peut se dire aussi, votre idée, en fait, elle a été simple et efficace, la preuve aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que vous tenez sur ce marché? Est-ce qu'il y a finalement peu ou pas de concurrents? Je serais tenté de vous dire qu'il y en a quand même peut-être pas mal, ne serait-ce qu'avec Amazon, parce que quand on vous écoute, on se dit, tiens, c'est un peu le système Amazon version, j'allais dire, Boken, sur un domaine très, très précis finalement.
Effectivement, on fait souvent la remarque, en fait, le parallèle. Alors, bah, j'ose pas me comparer à cette si grande multinationale, et c'est pas forcément non plus l'objectif. Mais en tout cas, c'est un bon parallèle dans le sens où ça permet de comprendre les différents avantages que peut avoir la vente en ligne. Et ça, je pense que je l'ai compris, je pense, depuis très longtemps. Voilà, le Internet et le e-commerce, voilà, ça a permis une vraie révolution, en fait, dans l'usage, dans la consommation générale. Et je pense qu'on a fait partie, effectivement, donc, des années où les sites Internet, qui aujourd'hui sont sur des verticales précises, commencent à prendre de l'importance aujourd'hui. Concrètement, des sites qui se sont montés il y a 5 ou 6 ans ont plus de mal à éclore aujourd'hui.
On a le sentiment qu'en fait, vous répondez surtout à une impatience du client, en fait. C'est-à-dire que la personne qui a envie de sa pièce là rapidement, c'est surtout ça, en fait, le créneau. Parce qu'en termes de prix, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à passer par vous par rapport à un fabricant qui va vous dire, vous l'aurez votre pièce, mais dans 3 semaines? Dites-vous, vous l'avez demain, ça vous coûtera un peu plus cher. C'est ce qui se passe vraiment ou...
Alors, en fait, de par la masse, en fait, de le volume d'achat qu'on a aujourd'hui, ça nous permet aujourd'hui à la fois d'être compétitif et à la fois d'être actif. C'est ce qui nous permet aussi d'être présent au niveau national, voire même international, sur certaines gammes de produits, quoi. Donc c'est vraiment tout, le meilleur du monde. On est livré bien rapidement pour un super rapport qualité-prix.
Dominique.
On a accusé Amazon justement de tuer les librairies. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir tué les vendeurs d'accessoires, les motocistes, comme on les appelle, les vendeurs de pièces détachées, d'accessoires moto?
Alors non, pas du tout, au contraire, parce que justement, on a une offre qui leur est réservée et qui leur permet aussi de s'approvisionner chez nous. Aujourd'hui, un professionnel peut aussi commander les produits pour les proposer à ses clients ou pour aussi les monter dans l'atelier, parce que le cœur de métier de ces professionnels, c'est vraiment la partie prestation, montage, en fait, sur le véhicule du client final.
Le volume de vos ventes aujourd'hui, quel est-il, en fait? Vous le comptabilisez chaque soir, vous regardez vos commandes, chaque semaine, chaque mois, et puis à l'année, qu'est-ce que ça donne?
Effectivement, on a la chance, hein, je pense, que effectivement d'avoir une croissance importante tous les ans. On parle de 20 à 30% par an.
Ah oui.
Donc aujourd'hui, effectivement, ça va représenter environ 600 000 commandes à l'année. Donc ça représente une moyenne de 2500 commandes par jour.
Il faut assurer,
oui, effectivement, mais c'est pas un problème dans le sens où c'est ce qu'on cherche aussi. C'est une volonté de croissance continue. C'est
vraiment dans les objectifs. Qui peut être vertigineuse et faire peur. Il y a toujours une taille critique à un moment. Est-ce que ça vous interroge?
Oui, bien sûr. C'est des questions, et c'est pour ça que c'est important aussi de se poser régulièrement pour déterminer une stratégie à moyen et long terme. Chose que j'ai pu faire quand je suis arrivé sur Cerisay en 2015 et que j'ai pu refaire également depuis un an ou deux, et qui nous permet de poser les jalons, en fait, de notre futur et de se dire effectivement ce qu'on veut, c'est une croissance, mais une croissance maîtrisée comme on fait tous les ans. Et donc c'est ce qui permet aussi de pouvoir avancer dans des contextes un peu divergents, quoi.
La croissance, elle sera forcément à Cerisay, ou est-ce qu'on peut imaginer de dupliquer un site 50 Factory ailleurs, soit aux portes plus près de frontières, par exemple, pour faciliter le développement à l'international? Est-ce que c'est possible, ça?
Alors, en fait, il y a plusieurs réponses. Déjà, si on parle de franchise, c'est des sujets qui ont été réfléchis, mais qui n'ont pas donné suite. Justement, on parlait de professionnels tout à l'heure. On a été très régulièrement sollicités par ces professionnels qui souhaiteraient bénéficier de notre marque, en fait, pour effectivement véhiculer là-dessus et jouer aussi sur la partie commerce physique. C'est pas forcément des options qui ont été retenues, parce que voilà, je pense que c'est encore une fois notre métier. Maintenant, si on parle vraiment de distribution, notre corps des métiers au niveau des pièces et équipements, aujourd'hui, de Cerisay, on est capable de livrer, comme je le disais tout à l'heure, en moins de 24 heures partout en France. Donc à partir de ce moment-là, c'est absolument pas un frein dans notre business model. Et même encore mieux, c'est qu'on est capable de livrer en 2 à 3 jours en fait sur l'Europe, là où on a aussi des parts de marché complémentaires qui viennent, quoi.
Du coup, vous parliez de croissance maîtrisée, quand on croît de 20 à 30% par an, comment on maîtrise une croissance pareille? Votre banquier, il a pas su des soirs fondre, des soirs froids.
Et mais... avec le sourire, on dirait en plus.
Je pense que... à partir du moment où effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a une stratégie qui est déterminée, moi c'est quelque chose qui est voulu, qui est recherché, et voilà, c'est de la détermination derrière. Donc c'est ce qui est important, c'est plutôt en fait de s'assurer qu'on a les moyens réguliers en fait pour justement poursuivre cette conquête, et puis ne pas justement aller dans trop de croissance, ou pas assez aussi, mais je considère que c'est nécessaire.
Vous parliez de stratégie, la stratégie c'est d'ajouter des marchés, d'ajouter de nouveaux marchés régulièrement. Vous avez commencé avec le 50, on a vu après la moto tout terrain, on a vu il y a du quad aussi, et récemment du vélo. Donc ça va continuer, vous allez ajouter quoi, les poussettes, les...
Et effectivement, en fait, on a vraiment un gros tournant en cette année 2024, donc avec deux grands univers qui arrivent, donc le vélo qui effectivement est un univers en fait qui est très important, qui permet aujourd'hui de toucher en fait une clientèle bien plus large, en fait aussi bien le grand public que vraiment le sportif. Hein.
Donc, oui, là en fait, vous savez surfer sur les tendances.
Oui, quelque part, et en même temps, la manière de fonctionner, c'est plutôt aussi d'aller prendre des parts de marché en fait sur les marchés existants. Ça, c'est important aussi de le voir comme ça. Et pour compléter la question effectivement sur les univers, aujourd'hui aussi on développe la partie motoculture avec tout ce qui est voilà, que ce soit de la pièce pour les robots de tonte, pour les tronçonneuses, etc. Donc là encore une fois, on va toucher encore plus une clientèle grand public.
Et vous partez quand même du principe que cette clientèle est un peu bricoleuse, quoi, parce que quand on récupère une pièce, il faut savoir quoi en faire derrière. C'est pas toujours si simple que ça. On n'arrive pas avec sa pièce dans un magasin, j'imagine, qui va peut-être vous regarder un peu de travers si vous lui demandez de faire le montage. Où ça se fait? Je sais pas.
Bah après, en fait, je pense que le marché nous a pas attendu pour faire ce qu'il faut. Tout simplement, nous, on vient répondre à un besoin. C'est vraiment de fournir, comme je disais, vite et bien un produit. Et puis, encore une fois, notre force, ça va être le stock. Donc, à partir du moment où on a un panel large de produits, moi, je reste vraiment convaincu qu'on a quelque chose à apporter de différent et de complémentaire par rapport à la concurrence.
Alors sur les vélos justement, où vous en êtes, où là pour l'instant, vous démarrez avec quelques pièces seulement, racontez-nous cette
comment on s'inscrit dans un marché en fait, on vient avec tout de suite un catalogue le plus étoffé possible pour séduire, ou on y va à tâtons?
Effectivement, de toute façon, une chose est sûre, c'est que même avec toute la bonne volonté du monde, ensuite il y a une chose qui est déterminante, c'est le temps. Et ça, on compte en années. Donc pour se positionner sur un marché, voilà, je pense qu'il faut pas compter en dessous de 3 à 5 ans. Et c'est comme ça qu'il faut voir. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé en fait cette année de lancer en parallèle les univers vélo et motoculture. Parce que on est aujourd'hui calibré au niveau des équipes et au niveau de nos moyens logistiques pour aller mener de front en fait ces deux chantiers. Effectivement, il y a le temps qui fait les choses, et c'est nécessaire à la fois d'aller proposer donc justement une gamme de produits large, d'avoir des produits pertinents au bon prix, et donc qui puisse être livré dès la première commande tout de suite.
Alors là, moi, par exemple, en ce moment, je recherche une roue de vélo pour mon mini vélo pliant de mon enfance. Est-ce que j'ai une chance de le trouver chez vous ou pas encore?
Alors, ce serait intéressant de regarder en détail, parce que moi, à chaque fois, je pars toujours du principe qu'il faut étudier chaque demande, aussi particulière soit-elle, parce que quand il y a un client qui a une demande, c'est qu'il y en a 100 derrière. Ouais. Donc, ce sera avec plaisir qu'on regardera.
On a l'impression, vous dégagez une espèce de force tranquille. Est-ce que vous faites partie de ces patrons qui bossent 70 heures, sont fatigués ou comment ça se passe vous? Comment vous gérez cette situation-là d'une entreprise en pleine croissance avec pas loin de 100 salariés maintenant au total? Est-ce que forcément il faut y passer toute sa vie ou est-ce que vous êtes plutôt de cette génération qui dit on va rester raisonnable dans l'équilibre vie pro, vie perso? Comment vous gérez ça?
Est-ce que c'est possible?
Il y a forcément une recherche d'équilibre, surtout qu'aujourd'hui c'est une aventure familiale parce que ma femme a rejoint l'entreprise du coup il y a 3 ans. Ça donne une nouvelle aussi dimension. Maintenant, effectivement, pour faire le parallèle, je pratiquais jusqu'il y a 2-3 ans le quad en compétition, en endurance. Donc je pense que l'endurance, c'est quelque chose qui est nécessaire quand on est entrepreneur. Parce que il faut tenir dans le temps et il faut aller aussi entretenir la flamme auprès des équipes, et c'est ce qui est vraiment nécessaire pour continuer à aller plus loin et puis avoir l'ambition qu'on a aujourd'hui sur les nouveaux marchés, parce que tout seul moi on est forcément limité, il faut que toute l'équipe suive quoi.
Et vous avez un management plutôt vous déléguez ou est-ce que vous avez quand même, comme c'est un peu votre bébé, vous avez quand même tendance à vouloir à ce que tout passe par vous?
Ah, je pense que la réponse est un petit peu dans la question, ouais. Même si encore une fois c'est nécessaire effectivement, et je le constate, et c'est avec grand plaisir que mes managers, mes différents responsables de service prennent de la hauteur, prennent effectivement leur rôle en charge, et on les accompagne du coup avec des formations qu'on fait en ce moment justement pour continuer à avancer, et je vois que ça se produit, donc c'est nécessaire et c'est une bonne chose.
Quand on dirige une boîte comme ça qui fait, en millions d'euros, oui, 30 millions d'euros de ce chiffre d'affaires, c'est ça, qui emploie plus de 100 salariés.
Alors vous aviez 91 salariés précisément, et il y a des intérimaires à côté.
C'est ça, oui, puis on monte à entre 110 et 120 en début de semaine, ouais, parce qu'on a toujours des intérimaires en plus. Ouais.
Il n'y a pas des moments où on a envie de poser un peu les valises et de dire je souffle, là j'en peux plus, comment on fait là dans ce cas?
Là encore, on me le dit de temps en temps, on me dit ça va. En fait, c'est voilà, je pense que chacun effectivement a sa manière de voir les choses. En tout cas, la mienne, c'est plutôt d'être en mouvement permanent. En fait, c'est plutôt ça qui me fait avancer et de toujours effectivement avancer.
Oui, parce que vous auriez pu vous cantonner déjà à ce premier succès, où finalement vous savez très bien que ça ne peut pas durer un succès si on ne se projette pas et si on n'a pas justement les fameuses ambitions qui sont réelles aujourd'hui.
Oui, pour moi c'est vraiment nécessaire de régulièrement aussi de se poser puis de se dire voilà où on est, voilà où on s'était donné d'aller, et maintenant quelle est la suite du parcours.
Et vous prenez le temps de faire ça?
Oui, alors forcément pas au quotidien, mais c'est aujourd'hui j'ai une feuille de route qui est établie, qui est écrite et qui est partagée avec mes équipes pour les 7 à 8 ans qui viennent, effectivement.
Et c'est vrai que vous avez toujours ce sourire, et je rebondis sur la question de Fabien. Est-ce que quand même derrière, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de stress? Ou finalement, je ne sais pas, vous faites du yoga ou... et tout fonctionne. Et parce que vous avez peut-être aussi votre épouse aujourd'hui sur laquelle vous pouvez aussi vous reposer. Vous le disiez, c'est une histoire familiale. Enfin, quand même, on peut se dire qu'à 91 salariés et plus aujourd'hui, c'est une autre dimension.
Oui, bien sûr, c'est notre dimension, et d'autant plus que j'en plaisante des fois avec certains de mes salariés, mais je me souviens avoir dit à mes parents quand je m'étais juste lancé, j'aurais jamais de salarié. Et pourtant, comme quoi, il faut absolument toujours se remettre en cause, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai plaisir d'avoir des équipes qui nous permettent d'avancer et de toujours avoir des projets plus grands. Donc, voilà.
Alors on parle de succès depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quand même des ratages parfois? Moi je pense par exemple, vous aviez lancé une gamme de boîtes à lettres géantes pour les colis. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche selon vos espoirs? Ou est-ce que du coup vous avez des idées parfois, faut accepter ça? Ça matche pas quoi.
Alors moi je fais partie de ceux en fait qui disent qu'on se loupe jamais, qu'on apprend toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, les projets ne sont pas toujours un succès, même j'ai la chance qu'il y en a très peu. Mais en tout cas, ça permet de comprendre et d'apprendre en fait le marché. Effectivement, ce projet qui a été lancé en parallèle,
Vous nous rappelez ce que c'était exactement ?
En fait, c'est tout simplement, je suis parti d'un constat, encore une fois, qu'on avait dans nos clients, des clients qui n'étaient pas forcément disponibles chez eux, et donc pour recevoir leurs colis. Et donc, j'ai constaté que la plupart des colis en fait, qui posaient problème, c'est tout simplement qu'ils ne tenaient pas dans la boîte à lettres. Mmh. Donc, tout simplement, je me suis dit, on va fournir une boîte à lettres un peu plus grande. Bon, effectivement, il y a un marché, mais qui reste un marché plus faible. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré recentrer sur les activités qu'on a. Et c'est pour ça qu'après, j'ai quelqu'un qui a pris le relais, en fait, une autre entreprise qui a pris le relais.
Alors, parmi les accidents qu'on peut avoir, vous travaillez sur Internet, donc il y a le risque cyber. On a vu récemment un de vos concurrents, vos confrères, qui a subi un gros accident industriel, une cyberattaque, tout simplement. Je crois qu'ils viennent tout juste de relancer leur site après un mois de fermeture, pratiquement. C'est un risque sur lequel vous êtes vigilant, j'imagine.
Oui, complètement, bien sûr. Bah, c'est exactement du même niveau que le risque industriel, où j'étais encore en discussion ce matin avec mon assureur. Là, on nous demande d'être encore plus parés contre des départs d'incendie, des choses comme ça. Donc, effectivement, ça fait partie des risques qu'il faut savoir prémunir. Et bien sûr, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup investi par le passé pour aujourd'hui être complètement serein.
C'est une hantise, mais finalement, plus tant que ça, vous êtes vraiment protégé contre ça ?
Personne ne peut dire ça. Personne ne peut dire ça, mais en tout cas, on en est prémuni. C'est pour ça que je fais souvent le parallèle avec vraiment tout simplement la sécurité des bâtiments. À partir du moment où on renforce en fait tous les dispositifs, oui, on peut quand même être serein à côté.
Oui, j'allais vous le dire, justement, est-ce qu'il y a encore un assureur qui veut bien vous assurer ? Parce que ça peut être compliqué. Non, mais j'imagine que oui, mais avec autant d'espace de stockage et autant de références et de produits sur place.
Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un enjeu avec un risque industriel. De part forcément la volumétrie, et donc ça nécessite d'être toujours aussi plus fin dans les références qu'on stocke, etc.
Il y a la réussite donc de l'entreprise. En ce moment, on est dans un débat au niveau national sur la contribution des entreprises, notamment pour essayer d'aider les finances nationales. Est-ce que vous trouveriez-vous logique, au regard de cette réussite-là, de devoir contribuer un petit peu plus, que l'entreprise donne un petit peu plus pour le partage de la richesse, en quelque sorte ?
C'est un sujet qui s'avère presque politique et sur lequel je ne pense pas être en mesure de pouvoir m'exprimer.
Le principe, en tout cas, est-ce que vous trouvez finalement logique que des entreprises qui ont des excédents importants contribuent un petit peu plus, quoi ?
Après, encore une fois, c'est un sujet politique et c'est absolument pas mon métier, donc je m'y risquerai pas du tout. Une chose est sûre, c'est que on contribue déjà activement avec toutes les obligations légales en termes d'imposition, et encore une fois, on est à 100% en France, donc l'ensemble de nos impôts est redistribué en France, donc voilà.
Ça vous semble déjà assez haut, c'est ça qu'on doit entendre.
Je vais pas porter de valeur de jugement, encore une fois, mais en tout cas, on assume nos obligations.
Vous le disiez, je vois grand. Alors, on a vu là vos différentes étapes et on se dit, où va-t-il s'arrêter en fait ? Est-ce qu'il a envie de s'arrêter seulement ?
C'est forcément un sujet qui est important, et dans le sens où, pour moi, encore une fois, c'est que ma vision, mais pour moi, je pense qu'il ne faut jamais considérer comme les choses en l'état. C'est-à-dire que le commerce, c'est quelque chose qui est mouvant. On parlait tout à l'heure des différents usages, des modes de consommation qui ont évolué. Et pour m'intéresser beaucoup aussi à l'histoire du commerce depuis le 19e siècle, on a vu les différentes révolutions avec avant la grande distribution où c'était du commerce en local, la grande distribution qui est venue bouleverser, et ensuite Internet qui est venu encore une fois bouleverser. Donc l'usage de demain, il va peut-être encore être différent, on ne le connaît pas. En tout cas, tout ça pour en tirer quelque chose, c'est qu'il faut toujours être justement à l'affût de ce qui se passe, et donc forcément toujours en mouvement pour justement être en conquête sur les nouveaux marchés.
Et est-ce que c'est pas ça justement qui vous passionne en priorité, d'être toujours un petit peu au-dessus de la mêlée, entre guillemets ?
De toujours essayer d'être à la pointe, ça fait partie de nos valeurs. ça fait partie de nos valeurs, effectivement, de toujours essayer de toujours pousser les projets, de toujours avancer et d'innover. Ça, c'est effectivement important. Si je reprends un exemple sur lequel on a communiqué récemment, on a mis en place un configurateur en trois dimensions. C'est complètement nouveau et sur le marché, en fait. On est les seuls à avoir proposé ça, quoi. Ce qu'on disait tout à l'heure, on aime bien l'innovation chez 50 Factory. Et je suis parti du constat il y a 2-3 ans, en fait, qu'il existait, qu'il existe toujours d'ailleurs. C'est juste que je m'y intéresse un petit peu moins aujourd'hui, mais dans les jeux vidéo, en fait, la possibilité de créer, de personnaliser ces véhicules. Et je me suis dit, ça peut être quand même intéressant qu'on réplique au moins en partie, en fait, le concept. Et on a beaucoup investi en interne, on a modélisé une partie en fait des pièces détachées, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut configurer en 3D donc son poste de pilotage avec le guidon, les poignées de revêtement, les protège-mains, les leviers, donc aussi bien pour tout ce qui est moto 50 cm3 que motocross.
On personnalise en fait son engin.
C'est ça, en fait, on choisit parmi la banque de pièces qu'on a en stock les différents composants qu'on peut voir s'assembler directement en fait sur le téléphone ou sur l'ordinateur en trois dimensions, qu'on peut faire tourner en fait pour voir sous tous les angles. Et bien entendu, une fois qu'on a trouvé la configuration qui nous convient, on peut l'ajouter au panier.
Et vous voyez des traductions concrètes, c'est-à-dire vous arrivez à mesurer entre les personnes qui utilisent le configurateur et ceux qui passent commande, s'il y a une bascule qui se fait ou c'est difficile à mesurer?
C'est encore un petit peu trop frais pour l'instant, mais en tout cas on voit qu'il y a effectivement une appétence et c'est le côté aussi ludique parce que c'est aussi ce qui plaît à nos clients, quoi.
L'innovation, justement, c'est un secteur sur lequel, évidemment, vous planchez beaucoup. Vous avez spécifiquement une équipe dédiée.
Alors, une équipe dédiée pour la partie développement produit. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a 3 personnes vraiment sur la partie produit.
Ça semble peu au final.
Oui, mais encore une fois, parce que ça, c'est une partie plus petite de notre activité. Vraiment, notre cœur de métier, c'est vraiment l'achat-revente. Donc, travailler avec les fabricants pour ensuite proposer à la vente au détail. Et ensuite, pour la partie plus globale autour de l'innovation, en fait, c'est plutôt dans notre culture d'aller justement toujours rechercher ce qui est plus innovant dans les différents services, que ce soit au niveau informatique, au niveau communication, etc., quoi.
On a bien compris, pour résumer, vous allez me dire si je me trompe, vous avez un premier univers, celui de la moto, avec ses pièces détachées plutôt neuves, plutôt que d'occasion aujourd'hui. Et à chaque fois, vous consolidez cet univers. Peut-être qu'un jour, vous le verrez disparaître, mais ce n'est pas si grave, en fait. L'essentiel, c'est d'avoir toujours de l'avance.
Alors, disparaître, non. Non, bien sûr.
Vous n'en savez rien d'ici.
Bien sûr, on ne connaît pas l'évolution du marché.
Je pousse un peu le bouchon.
Mais en tout cas, ce qui est nécessaire, et ça, je le martèle auprès de mes équipes, mais on est tous en phase là-dessus, c'est que ce qu'on veut, c'est toujours avancer sur les nouveaux marchés, mais tout en consolidant nos positions, et ça, c'est très important. Il ne faut jamais se croire arriver, parce que c'est à partir de ce moment-là où c'est pas bon. Et voilà, c'est toujours important de garder la qualité de service. Et voilà,
la pièce auto, est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez faire un jour?
Il y a plein de réflexions qui sont à l'état de réflexion pour l'avenir à long terme. En tout cas, aujourd'hui, on a 3 grands univers grand public qui sont, encore une fois, la partie moto, vélo et motoculture. Et puis, voilà, c'est bien de dire les choses, de les poser. Maintenant, à nous de faire le travail et puis de se revoir dans quelques années pour discuter de pourquoi pas d'autres univers. Ce sera avec plaisir.
Sur votre marché, vous vous situez où ? Par rapport aux concurrents, il y a des grands sites qui ont été lancés un peu plus tôt que vous. Vous êtes deuxième, troisième, dixième, vingtième.
Alors en fait, on a plein de concurrents parce qu'on a quand même pas mal de marchés différents. Si on parle de concurrence, vraiment, on va aller par segment, c'est-à-dire qu'un concurrent dans le motocross va pas être le même concurrent que dans le quad, qui ne sera pas le même dans le cyclomoteur à vitesse, qui sera pas le même dans le cyclomoteur à variateur. C'est très 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 segmenté. Donc en fait, de se donner une position sur le marché global, c'est quand même un peu délicat. En tout cas, sur nos marchés vraiment d'origine autour du 50 cm3, aujourd'hui, on est leader, oui.
Et on voit vos pubs s'afficher sur des événements forts. Ça aussi, c'est une force de frappe incontournable.
En effet, en fait, l'objectif aussi, quand on... quand on fait de la communication, notamment auprès de la télévision, c'est aussi d'offrir un peu plus de visibilité pour les gens qui ne nous connaissent pas, et c'est nécessaire aussi de par aujourd'hui la largeur de gamme de produits qu'on a.
Ça, c'est pour votre notoriété, c'est indiscutable. Il faut passer par ces voies-là. Où je me dis, la télé, c'est aussi un moment, je suis fière, c'est un petit péché d'orgueil.
Voilà, moi je pars du principe en fait où on cible en fait les chaînes sur lesquelles on diffuse.
Et
sur les chaînes sur la 24 notamment, où on est sur vraiment l'essentiel, ce sont des programmes autour de la mécanique. Donc ça correspond vraiment à 200% à notre clientèle. Et à partir de ce principe-là, on va être dans l'utile, dans la portée en fait de la clientèle cible.
On a vu l'an dernier, vous avez organisé un événement un peu nostalgique pour les amoureux des cyclos, des 103, de la génération 103.
C'est ta génération, Dominique ?
Plusieurs générations. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de refaire un jour ou sur autre chose, peut-être le vélo, sur un autre univers que vous développez ?
Ouais, alors c'est vrai que je repose un petit peu le contexte. Encore une fois, on aime bien se lancer des défis chez 50 Factory. Et puis, quand en novembre 2022, j'ai évoqué avec les équipes, je dis que ce serait quand même bien qu'on fasse quelque chose qui sorte de l'ordinaire, qui soit justement à proximité de nos clients, parce que par Internet, c'est bien, mais on se voit pas. Voilà ce qui en est sorti de la réflexion commune, c'est on va lancer un événement donc, qui se fera donc, l'été 2023, donc un peu plus de 6 mois après, et qui avait pour objectif de rassembler donc le plus grand nombre de passionnés de mobylettes, bien sûr avec leurs mobylettes, et donc tout ça dans plutôt un cadre sympathique et à proximité donc de Cerizay. Donc c'est pour ça qu'on a créé le salon de la mob, et puis on a réussi à rassembler donc quasiment 5000 personnes et 800 mobylettes sur l'espace d'un week-end, donc au mois de juillet 2023. Donc c'était un vrai pari et c'était réussi. Et c'était annoncé dès le début, on voulait que ce soit un événement unique, et c'est pour ça qu'on voulait qu'il y ait le maximum de personnes ici qui viennent, parce que voilà, c'est ce qu'on avait évoqué. On est beaucoup sollicité depuis pour refaire une autre édition. Et comme je l'avais promis, il n'y en aura qu'une. Maintenant, voilà.
Vous pensez déjà à autre chose. Je le vois dans votre regard qui pétille.
Maintenant, voilà, on a tellement pris plaisir avec les équipes à organiser justement cet événement qu'on évoque un petit peu comme un gros team building quand même, parce que c'est pas du tout notre métier l'événementiel, mais absolument pas, et on a relevé le défi encore une fois avec le soutien de tout le monde et aussi du coup des organisateurs sur la partie terrain, mais il y a des idées, mais il y a absolument pas de projet de poser en tout cas dans l'état actuel, pas de date, mais ce sera avec plaisir que dans quelques années, je pense qu'on repartira sur un nouvel univers, oui.
On l'a dit tout à l'heure, on n'a peut-être pas assez insisté, vous avez 91 salariés et combien d'intérimaires ?
Entre 20 et 25, oui, en fonction.
Alors, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui, justement ? Est-ce qu'il y a un turnover chez vous ? Est-ce que c'est difficile de recruter, comme dans beaucoup de secteurs ? Et est-ce que vous satisfaisez de ce nombre de salariés, ou bien vous aimeriez recruter encore ?
Alors aujourd'hui, quand j'en discute avec d'autres chefs d'entreprise, c'est toujours avec grand plaisir que j'évoque le fait qu'on n'a aucune difficulté de recrutement, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment une chance en fait qu'on peut avoir, quoi.
Comment vous l'expliquez ?
Alors sur notre métier principal, où on a des recrutements réguliers dans l'année, c'est au niveau logistique, au niveau préparation de commandes. Donc ce sont des métiers sur lesquels on a possibilité de former en interne, sans forcément d'expérience préalable. Et puis aussi on est dans un cadre quand même qui offre une qualité de vie au travail satisfaisante, c'est-à-dire qu'on est dans des locaux chauffés, on a des horaires qui sont des horaires de journée. Donc on renie quand même beaucoup de critères qui aujourd'hui sont recherchés par beaucoup de salariés, je comprends.
Vous avez 38 ans, est-ce que vous pensez déjà à ce que vous ferez de 50 Factory quand l'heure de la retraite viendra ? Parce que c'est un gros bébé quand même à transmettre. C'est quelque chose, j'imagine, qu'on n'imagine pas du jour au lendemain, quand vous parliez de trajectoire et d'anticipation. Est-ce que vous y pensez déjà ?
Alors, y penser, quand on dit penser et que la question derrière c'est préparer, non, c'est pas, voilà, c'est encore un petit peu tôt et je pense qu'il faut vraiment se laisser le temps au temps, comme on dit. En tout cas, aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est effectivement de se projeter pour les années à venir avec toujours des projets ambitieux et réalistes.
Votre plus grand rêve, alors, quel serait-il pour conclure cette émission ?
Le plus grand rêve, c'est tout simplement, en fait, de continuer à créer de l'activité au sens le plus large, en fait, possible et de pouvoir, en fait, satisfaire toujours plus de clients. Donc, voilà, j'ai évoqué trois grands univers. Je pense qu'une fois qu'on aura pris des parts de marché conséquentes sur ces grands univers, ça voudra dire qu'aujourd'hui, on pourra avoir une portée encore plus grande au niveau national. Et puis ben, porter les couleurs de 50 Factory, porter les couleurs de Cerisay, des Deux-Sèvres à travers la France entière. Donc ce sera un plaisir. Ouais.
Vous donnez l'impression en fait d'avoir une idée à la minute, mais que vous vous freinez.
Freiner, non, canaliser, ouais. Canaliser, c'est nécessaire. Ouais. C'est nécessaire parce qu'effectivement, quand on est déterminé, et je pense que c'est mon cas et c'est aussi le cas de mes équipes, c'est nécessaire d'aller dans une seule et même direction.
Merci à vous, Willy Marolo.
Merci beaucoup.